Salut à toutes et à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur?
On n'a pas de mémoire.
L'agriculture est en train de crever, sincèrement. Toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale de Canal B, les lundis et mercredis de 12h15 à 12h45, et en rediff les mardis et jeudis à 8h15. Et dans cette édition du mercredi 11 février, Julie, tu vas nous parler algorithmes.
Et oui, c'est ça, je me suis entretenue avec Hubert Guillot, qui est journaliste spécialisé sur la question des algorithmes, justement. Et donc, on a parlé un peu de leur impact sur la société, notamment dans le milieu du travail et dans l'administration française.
Et ensuite, vous entendrez Colline de la CIMAD, le comité intermouvement auprès des évacués. Et elle nous parlera rétention administrative et droits des personnes étrangères en France. Bon Julie, les thématiques du jour ne sont pas hyper joyeuses. Hein.
Non, en effet, l'administration se robotise et on enferme légalement des innocents sur la base de leur origine.
Sympa tout ça, mais bon, au final, est-ce que ça ne rime pas avec l'actualité internationale du moment? Trump, l'Iran, les dossiers Epstein, et pas que l'actualité internationale d'ailleurs, rien que le budget 2026 me donne des frissons. Pourtant, la nuit d'horreur d'Halloween, c'est pas pour tout de suite.
Après, c'est cool Halloween quand même, hein. En plus il y a plein de bonbons. Bon, après si tu toques à la Maison Blanche, pas sûr que les bonbons soient méga safe. Mais enfin bref, si l'actu là actuellement elle me donne envie d'aller faire un tour au Nirvana, il reste encore un peu d'espoir dans ce monde de brut.
Mais non, tu crois ?
Bah ouais, en fait le problème c'est que les médias français sont tellement saturés par l'extrême droite qu'on passe à côté des luttes solidaires à travers le monde. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo du média Blast qui m'a fait du bien. Ça s'appelle « Face à l'extrême droite, la résistance s'organise ». Dans cette vidéo d'une heure, Paloma Moritz et Salomé Saké, deux journalistes, recensent plusieurs aspects de cette résistance. Et la phrase qui m'a marquée dans cette vidéo, c'est une dame aux États-Unis qui dit « S'il y a du fascisme, il y a aussi forcément de l'antifascisme ».
Mais c'est ça, c'est tout le danger de ce monopole des médias avec un choix des sujets qui ne représentent pas la réalité, mais qui nous font croire que les initiatives sont obsolètes et anecdotiques.
Oui, et par exemple, on a une image qui est hyper conservatrice des États-Unis, on y voit Trump qui fait son pitre, mais en réalité, l'opposition s'est vite exprimée après l'élection, et à Minneapolis, depuis le déploiement de la police de l'immigration, c'est toute la ville qui s'organise pour faire barrage à ICE, à travers des patrouilles pour repérer les voitures suspectes, des messageries cryptées. En fait, il y a un réel élan solidaire pour protéger les habitants immigrés. Et c'est pas que aux États-Unis. Par exemple, à Rennes, sont souvent organisées des marches aux flambeaux, des tables rondes, des rencontres-échanges et d'autres actions solidaires sur un grand nombre de thématiques. Et par exemple, ce soir à Rennes, à 19h, à la Maison des Jeunes et de la Culture, le Grand Cordel, a lieu une soirée d'échanges, montée et banalisation du fascisme, enjeux et résistance.
Eh bien, merci Julie pour cette dose de bonne humeur et de vérité bien utile. L'enjeu de ces initiatives, c'est de voir que nous ne sommes pas seuls à lutter, même si elles sont rarement mises en valeur dans les médias mainstream, n'oubliez jamais qu'elles existent, et que c'est grâce au collectif que l'on peut avancer.
Putain de bullshit job, et viens faire un tour avec moi. On volera une Fiat Panda, et puis plein de bébés pandas. Je t'en prie, reviens avec toi. Voir tout ça.
Pauline, j'ai bien eu votre email. J'avoue, il m'a un peu surpris. On ne m'écrit pas de choses pareilles. Et puis surtout, pas un lundi. J'ai tout de suite envisagé de vous faire licencier. Et puis j'ai pris après-midi pour me faire un avis. Je suis allée marcher au parc, j'ai mangé un panini, j'ai pris un sundae au domac, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai même fait un cunnilingus.
écoutiez Bullshit Job de P2RB et Philippe Catherine sur le 94 FM. Et tout de suite, on retrouve Julie pour l'interview du jour. Et elle est accompagnée de Hubert Guillot, journaliste spécialisé dans les algorithmes.
Vous êtes déjà peut-être laissé avoir par des publicités sur les réseaux sociaux vendant des objets en tout genre souvent inutiles. Eh bien, si votre portefeuille a succombé à l'algorithme d'Instagram, sachez qu'il n'est pas au bout de ses surprises. En effet, ces algorithmes ne sont pas utilisés uniquement sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi utilisés par de grandes structures françaises comme la CAF, Parcoursup ou encore d'autres entreprises privées. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Pour vulgariser un peu, un algorithme, c'est une chaîne d'instructions précises qui doit être suivie dans l'ordre pour obtenir un résultat donné. Par exemple, une recette de gâteau au chocolat, c'est un algorithme. Il nous indique que pour avoir un bon moelleux, il faut préchauffer le four, peser les ingrédients, mélanger, etc. Il y a donc une suite d'instructions, la recette et le résultat final, un superbe gâteau au chocolat qui satisfera votre palais gourmet. Maintenant, vous vous doutez bien que l'algorithme de notre merveilleuse CAF est un peu plus technique que ça. Et il peut même devenir problématique lorsque des biais discriminants intègrent ces paramètres. En 2023, la Quadrature du Net révèle que la Caisse nationale des allocations familiales utilise depuis 2010 un algorithme discriminatoire qui vise délibérément les allocataires les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous recevons Hubert Guillot, journaliste spécialisé sur les questions des algorithmes et leurs impacts sociaux, auteur du livre « Les algorithmes contre la société » pour parler de ces problématiques dans la sphère publique et privée en France. Hubert Guillot, bonjour.
Bonjour.
D'abord, une première question. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à peu près depuis quand est-ce qu'on utilise les algorithmes dans la sphère publique en France ?
Ouf, fait très très longtemps qu'on utilise des systèmes de calcul complexes, mais il y a quand même eu des transformations assez profondes, notamment aux impôts et à la caisse d'allocation familiale, qui sont les deux administrations publiques précurseuses, dès les années 2005-2010, où se sont mises à utiliser en fait des systèmes de calcul pour calculer les droits, pour essayer de regarder et de produire en fait des normes pour tous les individus. Et c'est vrai qu'il y a une forme de révolution silencieuse qui s'est passée en fait à partir de 2005-2010. Les bases de données sont constituées et peuvent permettre d'être exploités, et c'est ce qui va se passer en fait, quoi. Donc c'est vraiment dès cette époque-là en fait que se mettent en place des systèmes pour calculer les allocataires, calculer les droits des allocataires, calculer les impôts de la plupart d'entre nous en fait, qui sont assez simples à calculer avec des tas de règles un petit peu différentes. Mais voilà, il y a vraiment une transformation à partir de ce moment-là et qui a continué dans une forme de raffinage des technologies, des bases, du croisement des bases de données entre elles, etc., permettant toujours d'affiner et de prolonger les calculs.
Et justement, derrière ces systèmes de calcul, est-ce que c'est les institutions qui demandent un système de calcul à une entreprise ? Est-ce que c'est elles-mêmes qui conçoivent leurs algorithmes ? Comment ça se passe ? Il y a qui derrière, en fait ?
Alors les deux, mon capitaine. D'un côté, en fait, il y a des administrations qui vont rester suffisamment autonomes pour pouvoir déployer et développer leur propre modalité de calcul. C'est le cas aux impôts, c'est le cas à la CAF, où ils ont les ressources en interne. Et ils ont utilisé des ressources en interne, des gens qui se sont mis à faire du calcul, souvent dans des agences locales, et qui ont été après réutilisés au niveau national. Et de l'autre, vous avez beaucoup d'administrations qui font aussi appel à des sociétés extérieures, des grands cabinets de conseil ou des prestataires informatiques qui vont développer pour eux des systèmes de calcul, des systèmes algorithmiques. Et bien évidemment, parmi ces grands acteurs, vous avez énormément d'acteurs qu'on ne connaît pas, des petits acteurs privés. France Travail, par exemple, a beaucoup tendance à utiliser des prestataires extérieurs par rapport à d'autres administrations. Mais pas que. On a vu, par exemple, des grandes entreprises du conseil et du développement logiciel mettre en place, en fait, des systèmes techniques dans d'autres pays que la France. Et ces mêmes systèmes techniques étaient plus ou moins repris dans d'autres administrations. Donc, il y a ce double effet. D'un côté, une forme de souveraineté des capacités de calcul dans certaines administrations qui restent fortes et de l'autre côté d'autres qui délèguent en fait leur capacité de calcul à des acteurs tiers qui vont faire les calculs pour eux.
Et vous expliquez justement que dans ces algorithmes, ils peuvent perpétuer des biais discriminatoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors, la plupart des systèmes de calcul, les gens qui les mettent en place essaient justement d'éviter ce qu'on appelle les biais assez classiques, genre prendre en compte le genre, par exemple, ou autre. Donc en fait, assez souvent, on essaye d'exclure ces données dans les modalités de calcul. Donc le genre, la catégorie genre n'est pas prise en compte par le calcul pour calculer vos impôts, par exemple. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ces catégories explicites qui ont des variables à l'intérieur d'eux. Il y a toutes les autres catégories. En fait, même votre niveau de salaire ou le niveau d'aide que vous recevez peut être un indicateur de biais. Bien évidemment, les personnes pauvres vont recevoir plus d'aide que les personnes riches. Donc, du moment que vous recevez des aides, vous êtes potentiellement, en fait, il y a un biais qui peut être calculé de tas d'autres manières. Donc, en fait, la question des biais, c'est d'essayer de se dire comment l'algorithme pourrait être neutre par rapport à des conditions sociales, par rapport à des conditions économiques, par rapport à des conditions politiques, de classe, de genre ou de race en fait. Donc toutes les conditions peuvent-elles être neutralisées par les calculs ? Ce dont on se rend compte dans toute la recherche qui est menée sur ces questions-là, c'est que c'est très difficile en fait de produire des calculs neutres parce qu'en fait tout a un sens en fait. Quand vous gagnez les 594 euros du RSA, ça ne dit pas seulement la somme que vous gagnez, ça décrit également certains types de personnes qui vont avoir tendance à obtenir cette aide. Et donc, à l'intérieur en fait de nos données, il n'y a pas de données neutres. Il y a toujours des données qui ont un biais de la manière dont elles sont produites, de la manière dont elles sont utilisées. Et donc, le rêve de neutralité des systèmes techniques, en fait, n'existe pas. La logique, bien évidemment, c'est d'essayer de dépasser ou de limiter, en fait, leurs effets. Ce qu'on constate, en fait, de partout, c'est qu'on y arrive extrêmement mal. La CAF, par exemple, son algorithme le plus récent, montre qu'il y a un effet très, très fort. Elle va sur-cibler certaines catégories de personnes. Parce qu'elle recherche en fait des indus qu'elle a trop versés à des bénéficiaires et en surcontrôlant en fait ces indus, eh ben elle va cibler majoritairement certains types de bénéficiaires. On se rend compte aujourd'hui que l'essentiel des personnes poursuivies par la CAF pour ces problèmes d'indus sont les plus gros bénéficiaires, c'est-à-dire surtout des femmes isolées, des mères isolées en fait, alors qu'elles sont très minoritaires parmi tous les bénéficiaires de la CAF. Donc il y a cet effet d'ajustement ou de contrôle qui est très très important et qui est pour l'instant très très mal maîtrisé par la plupart en fait des gens qui produisent des algorithmes. Mais parce qu'il est très difficile à maîtriser en fait.
We'll be right back.
C'était Superstar de The Spitters. Vous êtes toujours sur Canal B dans 3 en 1. Et tout de suite, on retourne en studio avec Julie et Hubert Guillot pour parler algorithmes, automatisation et stigmatisation dans l'administration française.
Et j'ai vu que vous dénonciez l'algorithme de la plateforme Parcoursup, notamment parce qu'il accorde plus d'importance aux retards et aux absences des élèves en voie professionnelle et technologique que les élèves en voie générale. Est-ce que ce biais, il est symptomatique d'un problème qui se retrouve dans tous les autres systèmes ?
Oui. En fait, c'est cette vieille chasse aux pauvres définie dès le 19e siècle, classe laborieuse, classe dangereuse, et elle est toujours en fait extrêmement présente de partout. Il y a une sociologue qui parle de lumpensproletariat, ce qui signifie en fait le petit peuple du score, c'est-à-dire ceux qui ont toujours de mauvais scores dans ces systèmes. Et effectivement, alors ce sont toujours les mêmes en fait, hein, ceux qui vont être la cible de la plupart de ces modalités de calcul, et ce sont souvent les gens les plus en difficulté en fait, qui vont être le plus surveillés par ces systèmes de calcul. Les systèmes automatisés aux impôts surveillent monsieur et madame tout le monde. Ils ont beaucoup plus de mal d'aller surveiller l'évasion fiscale des grandes entreprises ou des gens très très riches parce qu'elle est très spécifique et qu'elle est difficilement automatisable. Par contre, on automatise une forme de surveillance globale des déclarations des uns et des autres. Et donc, bien évidemment, enfin, dans tous ces systèmes, ce qu'on constate vraiment, c'est une sorte de surveillance accrue sur les gens les plus en difficulté.
On parlait donc des algorithmes dans les institutions publiques. Elles sont aussi beaucoup utilisées dans la sphère privée. Et donc, dans un article que vous avez publié sur le média Dans les algorithmes,
etc. Et ils ont des rapports autour de ça. Donc, de partout autour dans le monde du travail, en fait, aujourd'hui, ces outils logiciels nous ont envahis, calculent notre productivité et nous pousse à tenir des cadences particulières. Donc on a vraiment des systèmes logiciels vraiment présents partout et ce dont on mesure mal, c'est qu'ils scriptent, c'est ce qui nous influence considérablement sur tous nos comportements en fait.
Justement, pour limiter cet impact, c'est attendu aussi une régulation. Mais vous dites que la régulation molle, l'éthique pas chère et les systèmes techniques qui s'auto-évaluent, c'est important mais pas essentiel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Et du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer ces algorithmes-là ?
Alors, c'est la vraie difficulté. Aujourd'hui, ces systèmes, en fait, ont tendance à produire de la surveillance, produire des cadences. Et comment est-ce qu'on régule, en fait, quelle est la bonne cadence que peut vous demander un système ? On se rend compte, par exemple, que dans les entrepôts de logistique d'Amazon, si vous n'êtes pas jeune et en très bonne santé, vous ne tenez pas les cadences, en fait. Ce n'est pas possible. Donc, la difficulté vient pour des personnes un peu plus âgées, qui n'ont plus la trentaine, des femmes, par exemple, des femmes enceintes ou quoi que ce soit, qui ne peuvent pas tenir les cadences. Voilà. Vous avez des outils, en fait, qui optimisent les chiffres. Et comment font des personnes qui ne tiennent pas cette forme d'optimisation ? Sans compter que les jeunes employés qui arrivent dans ces entrepôts de logistique, ils tiennent pas longtemps parce que la charge est en fait très très lourde et assez souvent au bout d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans max, ils se retrouvent assez usés, assez fatigués et comme en fait ce sont des emplois, des CDD, voire des formes intérimaires, on les remplace assez rapidement par les autres. Donc il y a une vraie question des enjeux de travail autour de ces outils. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont assez peu régulés parce qu'en fait, ils essayent d'optimiser justement le temps de travail, la productivité, qui sont des valeurs fortes pour les entreprises qui les mettent en place. Et c'est une vraie difficulté, vraiment. Est-ce qu'on va arriver demain à se dire, est-ce qu'il y a des cadences limites qui sont possibles via ces systèmes et lesquelles ? Et comment est-ce qu'on en décide collectivement ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est tous ces éléments systémiques, ces logiciels, en fait, se sont développés sans beaucoup de regard des institutions publiques, des régulateurs et même, en fait, des syndicats, assez souvent, qui les ont vus arriver plutôt que de pouvoir avoir un peu la main dessus. Et ils posent des questions de fond, en fait, sur comment notre société fonctionne.
Et tout à l'heure, vous disiez que ces algorithmes, ils ont un peu envahi du coup la sphère du monde du travail. Quand est-ce qu'en fait les bureaux des organisations seront remplacés par des data centers qui vont procéder un peu à toutes les données de logistique?
Comment dire, l'idée ou le rêve de la robotisation, par exemple, on a beaucoup vu des images de robots dans les entrepôts d'Amazon qui viendraient remplacer les êtres humains. En fait, les spécialistes disent que ça fonctionne assez mal et que ça coûte très cher par rapport à des humains qui sont finalement pas bien payés, vite remplacés et à qui on ne demande pas un boulot très, très compliqué. Très épuisant physiquement, d'accord, mais pas nécessairement très compliqué. Et donc, en fait, le rêve d'entrepôt logistique complètement robotisé, en fait, n'est pas pour demain. C'est bien l'inverse, en fait. C'est l'être humain qui est robotisé un petit peu par les machines et ça coûte beaucoup moins cher. Ce rêve d'entrepôt qui fonctionnerait tout seul, de systèmes totalement efficients par eux-mêmes, je pense qu'il faut un peu s'en tenir éloigné. Et que l'enjeu est bien autre, en fait. L'enjeu, c'est celui de donner du travail à tous et à toutes, d'en avoir, avec des droits garantis, avec des conditions de travail justes et équitables. Voilà. Et donc, il faut pas se tromper d'endroit où regarder. La robotisation totale de la société, enfin, à terme, c'est un cauchemar pour chacun d'entre nous, en fait. Parce que ça signifie pour beaucoup d'entre nous, qu'on n'a plus de travail, tout simplement. C'est pas une chouette perspective, en fait. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on permet aux gens qui sont surveillés, calculés par ces systèmes, d'obtenir des garanties, en fait, de renforcer le droit du travail et les enjeux qui vont avec.
Eh bien, merci Hubert Guillot d'avoir été avec nous sur le plateau de 3 en 1. Donc, je le rappelle, vous êtes journaliste spécialisé sur les questions des algorithmes et leurs impacts sociaux. Vous êtes aussi auteur du livre « Les algorithmes contre la société » et vecteur et pilote du média dans les algorithmes. Et tout de suite, on retrouve Colline pour le retour de la CIMADE sur les antennes de Canal B dans 3 en 1. Et aujourd'hui, c'est un grand retour, c'est le retour de la CIMADE au micro de Canal B. Nous avons avec nous Colline, est-ce que tu vas bien ?
Bonjour, oui, je vais très bien et on est très contente d'être de retour sur Canal B. On est vraiment heureuse de revenir pour les chroniques.
Vous aviez il y a quelque temps une chronique régulière dans l'ancienne émission d'actualité de Canal B, L'Arène, animée par Lucie, et ces chroniques reprennent aujourd'hui.
Et oui, et pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, on travaille comme intervenante juridique avec la CIMADE, donc au Centre de Rétention Administrative de Rennes, un CRA, comme on dit aussi également. Et du coup, la CIMADE, pour rappel, c'est une association de défense des droits des personnes étrangères. Donc voilà, donc il y a aussi les permanences juridiques qui ont lieu à Rennes. Et donc, pour faire une petite présentation des CRA, les CRA, ce sont des lieux de privation de liberté dans lesquels les préfectures enferment des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière en vue de leur expulsion de force du territoire français.
Et pour votre retour à l'antenne, il vous semblait important de reprendre les choses depuis le début et de nous rappeler ce que c'est que la rétention administrative et parler notamment du CRA de Rennes.
Donc pour ça, faisons un peu machine arrière et on va vous parler du scandale d'Arenque. Donc c'est en 1975, il y avait un avocat qui a révélé au grand jour l'existence d'un hangar au cœur du port de Marseille où sont enfermées des personnes étrangères, majoritairement de nationalité algérienne, en toute illégalité, dans le but de les expulser du territoire français. Pendant plus de 10 ans, des milliers d'hommes et de femmes ont été enfermés dans ce lieu clandestin sans savoir le sort que les autorités françaises leur réserveraient. Et en 1981, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, la rétention administrative a été légalisée et c'est en 1985 qu'a ouvert le premier centre de rétention administrative en France.
Malheureusement, le premier d'une longue série.
Oui, et au départ, la durée maximale d'enfermement dans un CRA était de 7 jours. Elle est passée à 10 jours en 1993, à 32 jours en 2003, à 45 jours en 2011 et enfin à 90 jours en 2018. Et dans une dernière proposition de loi en 2025, il était question d'augmenter à nouveau cette durée pour arriver à un enfermement de 210 jours, donc 7 mois de rétention administrative. Fort heureusement, après l'adoption de cette loi, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, la jugeant disproportionnée. Donc la durée maximale d'enfermement dans un CRA est donc toujours de 90 jours, 3 mois. 3 mois quand même enfermés dans un centre de rétention administrative simplement parce qu'on n'a pas les bons papiers. Finalement, retenus dans une prison qui ne dit pas son nom.
Et sur le territoire, ils sont placés où ces CRA ?
Donc il y a 25 CRA en France, dont 4 en Outre-mer, avec des projets de construction de nouveaux CRA en cours, notamment à Bordeaux, Nantes ou encore Dunkerque. Le ministère de l'Intérieur ne cesse de clamer sa volonté d'augmenter la capacité des centres de rétention administrative avec un objectif de 3000 places d'ici 2027. Donc le CRA de Rennes, il fait partie de ces centres dont la capacité d'accueil va augmenter. Il a ouvert en 2007. La capacité maximale actuelle est de 56 places. Depuis environ 2 ans, n'y sont enfermés que des hommes seuls. Et le CRA devrait obtenir 10 nouvelles places, là au courant de l'année 2026, avant de passer au double d'ici 2027 pour atteindre une capacité de 108 places. Donc les travaux se succèdent au CRA de Rennes et en fait le CRA se carcéralise afin de se rapprocher du modèle des nouveaux CRA qu'on a appelle les CRA 2.0 et c'est une carcéralisation qui s'est accentuée en 2024 avec un découpage en zones de la cour extérieure et une grande restriction de la liberté de circulation des hommes retenus qui sont enfermés à longueur de journée dans leur bâtiment avec un accès très restreint à un espace extérieur.
Et qu'est-ce qu'il faut en penser de ces agrandissements de CRA ?
Toute ouverture ou agrandissement de CRA est préoccupant dans un contexte où la situation en rétention administrative est de plus en plus alarmante avec une dégradation des conditions d'enfermement, une montée des tensions, des violations quotidiennes des droits et un enfermement de 3 mois qui est de plus en plus systématique tant les décisions de libération se font de plus en plus rares. Donc il y a urgence finalement à aller à rebours de cette politique toujours plus sécuritaire et xénophobe et à se mobiliser pour la fermeture des lieux de rétention administrative. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les mobilisations contre les projets de construction des nouveaux CRA, vous pouvez vous rapprocher de certains collectifs, à l'instar de Colère Nantes CRA ni ici ni ailleurs, qui regroupe des organisations associatives, syndicales et politiques, et dont la CIMAD est membre, et qui se mobilise contre la construction du CRA de Nantes.
Eh bien, merci Colline d'avoir pris la parole au nom de la CIMAD dans 3 en 1. On vous retrouvera tous les mois dans 3 en 1 pour une chronique sur la rétention administrative et les droits des personnes étrangères en France.
Merci beaucoup.
3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Julie et à Hubert Guillot pour l'interview. Merci à Colline pour le grand retour de la CIMAD sur Canal B. Et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve lundi à 12h15 pour la deuxième de nos 4 émissions spéciales municipales. Bon après-midi ou bonne journée si vous nous écoutez en rediff.